Lors des soirées précédentes, nous avons parlé de l'Esprit Saint de diverses manières. La dernière fois, nous avons un petit peu développé qui il est, l'un de la Trinité, l'Esprit de communion du Père et du Fils. Nous avons vu comment l'Esprit se révèle, comment il se manifeste, comment il nous rejoint dans la vie de l'Église par les sacrements du baptême et de la confirmation. C'est surtout eux qui étaient présents la dernière fois. La mission propre de l'Esprit Saint, c'est de nous connecter personnellement et communautairement au Christ pour nous faire participer à la vie de Dieu. Alors, je cite un passage de Saint Paul aux Éphésiens. Le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Par l'Esprit, nous avons accès auprès du Père. C'est lui qui fait la relation intime entre chacun de nous et Dieu. Alors ce soir, je vous invite à observer un petit peu cette relation sous l'aspect du culte, de la relation. Dans l'Esprit Saint, quel est notre culte envers Dieu ? Alors le mot de culte est assez large, hein, souvent utilisé. Dans chaque religion, il y a un petit peu des manières d'honorer Dieu ou les dieux, de gérer les relations avec Dieu. Il y a des manières, des moments, des endroits liés au culte. Il y a généralement plusieurs aspects dans les actes du culte. Il y a d'abord l'adoration, c'est-à-dire cet amour, cette dévotion totale, d'une manière suprême et supérieure à toutes les autres. Une dévotion à Dieu, le premier commandement, « Dieu seul, tu adoreras ». Il y a aussi la louange. Nous disons, nous chantons la grandeur de Dieu. Nous confessons sa grandeur. Il y a l'action de grâce. C'est ce remerciement finalement que nous formulons pour tous les bienfaits que Dieu nous accorde. Nous le bénissons pour les bénédictions que lui nous a données. Il y a aussi ces prières de demande que nous articulons, des demandes pour nous-mêmes, pour d'autres, sous forme aussi d'intercession. Il y a aussi ces offrandes que nous mettons dans notre relation à Dieu, des offrandes spirituelles par la prière, des offrandes dans des actes symboliques ou des actes concrets. Il y a parfois une dimension pénitentielle dans cette relation à Dieu. Lorsque nous demandons pardon, ce pardon que nous exprimons aussi parfois par des offrandes qui expient, qui veulent racheter le pardon. Alors pour nous, le culte, nous voulons écouter d'abord ce que Jésus nous en dit, pour partir de là, et il nous présente un point fondamental dans son dialogue avec la Samaritaine dans l'évangile de Saint Jean. « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » Dieu est esprit, il est partout et toujours présent. Lorsque son esprit nous met en contact avec lui, c'est donc partout et à tout moment que nous pouvons et que nous devons lui rendre un culte. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement? Écoutons Saint Paul nous parler de ce culte que Dieu attend de nous. Dans la lettre aux Romains, je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Par la foi, nous prenons conscience de notre union à Jésus dans son esprit. Et dès lors, tous les actes que nous posons veulent être habités par l'Esprit Saint. Et tous ces actes font partie du culte que nous voulons rendre à Dieu. La beauté, la bonté de nos actes est une prière de louange qui rend gloire à Dieu. Ce culte est juste et agréable à Dieu parce qu'il est précisément l'action du Christ. Je rappelle ce que nous avons déjà dit plusieurs fois. Nous sommes unis tellement intimement au Christ par l'Esprit que c'est lui qui vit et agit en nous. L'obéissance à la loi, c'est l'obéissance du Christ qui s'incarne en nous. Je rappelle cette parole de saint Paul, « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Cette union spirituelle au Christ par l'Esprit nous permet d'entrer dans le culte que le Christ rend à son Père, ce culte qui est absolument parfait. Car par nous-mêmes, à cause de nos blessures et de nos péchés, tout ce que nous pouvons faire et offrir à Dieu est limité, imparfait. Même le meilleur de nous-mêmes est toujours pauvre et misérable. Seul Jésus, en tant que Dieu fait homme, peut rendre au Père l'hommage qui lui est dû. Et il le fait au nom de toute l'humanité, au bénéfice de tous ceux que l'Esprit unit à son corps. Le Concile Vatican II exprime tout cela en une phrase que je trouve magnifique, qui est très courte mais dense. « Dans le Christ, la plénitude du culte divin est entrée chez nous. » Alors nous avons déjà parlé de ce culte du Christ envers son Père, cette offrande du Christ au Père en évoquant le sacerdoce de Jésus. Je rappelle ce que nous avions dit. Jésus est à la fois l'offrande, le prêtre qui offre et l'autel du sacrifice. C'est sa propre vie qui est le sacrifice d'amour qui réalise l'alliance avec Dieu. Jésus est le temple où Dieu est manifesté et adoré en vérité. Tout au long de sa vie, au fur et à mesure que sa vie humaine se développe, que sa volonté divine s'incarne dans sa volonté humaine, et dans tous ses actes humains, Jésus offre au Père cet amour parfait qu'il attend en retour. Il offre cet amour au nom de toute l'humanité, cet amour qui est le remède à la blessure de tous les péchés. Et cette offrande prend une dimension sanglante lorsque Jésus accueille sur lui toutes les conséquences du péché des hommes pendant sa passion. Il se montre comme l'agneau de Dieu qui se laisse livrer à l'abattoir, mais dans un don libre et volontaire de sa vie. Il incarne dans ces circonstances le plus grand amour, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Don d'amour par fidélité au Père, mais aussi don d'amour pour les hommes. Par la foi et le baptême, nous sommes unis au Christ, grand prêtre. Et notre manière d'exercer notre sacerdoce, de baptiser, c'est en permettant à l'Esprit Saint d'habiter et de sanctifier toute notre vie en étant unis à la vie du Christ. Parce que Jésus est ressuscité, parce que son histoire humaine est totalement entrée dans la sphère divine désormais, au-dessus du temps et de l'espace, tous les actes de sa vie, tous ses mystères peuvent nous rejoindre spirituellement. Ils se rendent actuels dans notre aujourd'hui et ils deviennent, nous sommes unis à sa prière. L'Esprit Saint nous intègre dans cette réalité du culte que Jésus rend à son Père. Alors cela a une dimension personnelle, individuelle, bien sûr. Mais nous avons souligné la dernière fois que l'œuvre de l'Esprit Saint a toujours une dimension de communion, de multiplicité. Dans l'éternité, c'est lui qui fait l'unité dans la Trinité. Et dans le monde créé, dans l'Église, c'est lui qui permet à cette vie divine de s'exprimer dans la multiplicité des relations personnelles, dans un corps où la multiplicité des organes sont interconnectés et interdépendants. Donc la prière et l'offrande, le culte de Dieu dans toutes ses dimensions, nous ne le vivons pas seulement personnellement dans la foi au Christ, même si cette relation individuelle est toujours fondamentale, bien sûr. Nous nous souvenons du conseil de Jésus qui est toujours à l'ordre du jour. Toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Cette prière personnelle, cette union personnelle au Christ est toujours fondamentale. Mais Jésus est présent et uni à nous d'une manière particulière, d'une manière supplémentaire, lorsque la communion de l'Église est présente. Et c'est là aussi que l'Esprit, justement, se manifeste. Dans saint Matthieu, Jésus nous dit « Amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. » En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est pour cela que la prière liturgique communautaire a pour nous une grande importance. Dans la multiplicité de nos vies, l'Esprit Saint réalise une communion dans le culte, dans notre manière d'être en relation avec le Père, tous unis en Jésus, avec lui. La prière devient alors une liturgie, un ensemble de rites qui permet de communier dans un mouvement de prière. Alors je donne une petite définition de ce qu'est pour nous la liturgie concrètement. La liturgie, c'est l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ. Exercice dans lequel la sanctification des hommes se réalise, et dans lequel le culte public intégral est exercé par le corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire par l'Église entière, tête et corps, Jésus et nous. C'est un petit peu compliqué et dense comme définition, la liturgie. C'est pour dire qu'au travers de la liturgie de l'Église, c'est Jésus qui aujourd'hui agit, qui actualise sa mission de salut et de sanctification, d'une manière visible et communautaire. Donc Jésus réalise quelque chose au travers de la liturgie. Au cœur de notre prière communautaire, le Seigneur nous donne une manière encore plus grande d'expérimenter sa présence et son action. Et pour cela, il a confié des dons particuliers à certains membres de l'Église pour manifester sa présence, pour parler et agir en son nom. Nous avons parlé la dernière fois un peu rapidement de la multiplicité des dons de l'Esprit. Tous ces dons que l'on appelle, de manière générale, des dons charismatiques, des dons de la grâce, auxquels tous participent de manière diverse. Il y a aussi certains dons de l'Esprit-Saint qu'on appelle des dons hiérarchiques, par lesquels le Seigneur organise et construit son corps. Les apôtres ont reçu la plénitude de ces dons hiérarchiques pour rendre présent le Christ et son œuvre. Donc l'Esprit Saint a configuré les apôtres d'une manière particulière au Christ prêtre, qui seul exerce le vrai culte. Car l'œuvre de salut que Jésus a réalisée une fois pour toutes dans l'histoire, il a voulu qu'elle soit manifestée, qu'elle se réalise aussi pour toutes les générations des chrétiens, pour nous tous, pour qui il s'est offert. Il a voulu que nous nous imprégnions de sa grâce au fur et à mesure que nous célébrons ce culte. L'œuvre du salut des hommes et de la parfaite glorification de Dieu, le Christ l'a accomplie principalement par le mystère pascal de sa bienheureuse passion, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension. Mystère pascal par lequel, en mourant, il a détruit notre mort, et en ressuscitant, il a restauré la vie. Nous avons déjà parlé de ce mystère pascal. Cette offrande de son mystère pascal, Jésus la rend présente d'une manière particulière par le ministère de ses prêtres, dans un sacrement, c'est-à-dire un signe visible dans lequel cette réalité spirituelle nous rejoint vraiment et elle opère vraiment en nous. Le Concile nous dit « Pour l'accomplissement du salut, le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe et dans la personne du ministre, le même offrant maintenant par le ministère des prêtres, qui s'offrit alors lui-même sur la croix. Et au plus haut point, il est présent sous les espèces eucharistiques. » Alors, ce sacrifice de la messe, dans lequel tout le mystère pascal se rend vraiment présent, Jésus l'a institué la veille de sa passion dans le repas de la scène, en donnant aux apôtres, dans le même mouvement, le pouvoir de le réaliser en tant que prêtre. Donc cette manière d'être prêtre, nous l'appelons le sacerdoce ministériel. Il est donc distinct du sacerdoce des baptisés, dont j'ai parlé tout à l'heure, le sacerdoce des fidèles. En fait, ce sacerdoce est au service du sacerdoce des baptisés. Car lorsque l'Église célèbre le sacrifice du Christ, c'est pour que chacun puisse s'y unir d'une manière spirituelle. Comme la Vierge Marie, présente à la croix, s'est unie pleinement par le cœur et directement au sacrifice de son Fils, et bien dans le sacrifice de l'Eucharistie, nous sommes présents au pied de la croix pour unir notre vie et notre prière à celle du Christ. Le catéchisme nous dit que la dimension mariale de l'Église précède sa dimension pétrinienne. J'explique ce que ça veut dire. Une petite phrase qui dit un grand mystère. Alors, la dimension mariale de l'Église, eh bien, c'est cette sanctification que nous avons tous à vivre en nous unissant au Christ comme Marie. Marie qui est le modèle des croyants. C'est cela qui est l'essentiel, qui est le cœur de la vie chrétienne, l'union au Christ comme Marie. Et la dimension pétrinienne de l'Église, c'est en fait tout ce qui dans l'Église relève de la structure, des dons hiérarchiques qui sont au service de la sanctification de tous. Donc quand les prêtres exercent leur sacerdoce pour rendre présent le Christ, c'est en fait pour que chacun, pour que tous puissent s'offrir en tant que prêtre, justement, en union au Christ. Mais la chose la plus importante, la principale, c'est l'union de chacun au Christ. C'est l'exercice de notre sacerdoce en tant que baptisé. La hiérarchie de l'Église est donc principalement au service du corps tout entier de l'Église pour sa sanctification, c'est-à-dire pour exercer le culte de Dieu en union au Christ. Mais ce service dans l'Église se décline aussi dans deux autres domaines. Il n'y a pas que la sanctification, le culte. Il y a aussi tout ce qui relève de l'enseignement de la foi, au service de la parole de Dieu. Et deuxièmement, ce qui concerne la conduite de la communauté, le gouvernement de la communauté. Donc ce sont ces trois dimensions dans les dons hiérarchiques. Trois dimensions qui rejoignent finalement un petit peu les trois dimensions que nous vivons dans notre baptême, puisque chacun dans notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Donc prêtres pour nous offrir nous-mêmes à Dieu en union à Jésus. prophète en étant imprégné de sa parole et en témoignant de la foi. Nous sommes rois en organisant, en ordonnant notre vie et le monde qui nous entoure selon l'Évangile. Eh bien, dans la hiérarchie, justement, c'est un petit peu les mêmes fonctions à un autre niveau, puisque les ministres exercent justement le sacerdoce du Christ en rendant présent son sacrifice. C'est comme cela qu'ils sont prêtres. Ils proclament et enseignent la parole avec l'autorité du Christ, et ils sont prophètes dans le Christ. Et enfin, ils conduisent l'Église au nom du Christ, qui est le pasteur pour toute l'Église. Alors pour terminer le passage sur la hiérarchie, ce n'était pas le sujet direct ce soir, mais c'est tellement lié au culte pour nous. On va préciser quand même que cette plénitude des dons de la hiérarchie a été confiée aux apôtres, comme je l'ai déjà dit, et elle se continue dans les évêques de l'Église. Ces dons se transmettent par le sacrement de l'ordination. Nous disons que l'évêque reçoit la plénitude du sacrement de l'ordre, pour dire qu'il reçoit tous ses dons en plénitude. Alors très rapidement, les apôtres ont partagé ces dons avec les diacres et les prêtres. Les diacres apparaissent les premiers dans le livre des Actes des Apôtres. Les diacres qui sont les serviteurs, hein, c'est la traduction du mot diacre. Alors, je lis le catéchisme. Les diacres sont des ministres ordonnés pour les tâches de service de l'Église. Ils ne reçoivent pas le sacerdoce ministériel, mais l'ordination leur confère des fonctions importantes dans le ministère de la parole, du culte divin, du gouvernement pastoral et du service de la charité, tâches qu'ils doivent accomplir sous l'autorité de leur évêque. Dès que les communautés chrétiennes apparaissent dans le Nouveau Testament, il y a également des anciens, des presbytres qui apparaissent. Il y a plusieurs mentions dans les lettres du Nouveau Testament, ces presbytres qui sont les prêtres. Alors le catéchisme nous explique que les presbytres sont unis aux évêques dans la dignité sacerdotale et en même temps ils dépendent d'eux dans l'exercice de leur fonction pastorale. Ils sont appelés à être les coopérateurs des évêques. Ils reçoivent de l'évêque la charge d'une communauté paroissiale ou d'une fonction ecclésiale déterminée. Les évêques, qui sont à la racine des dons hiérarchiques que le Seigneur nous a donnés, qui sont secondés par les diacres et les prêtres. Donc les prêtres étant, comme les évêques, la présence du Christ prêtre pour offrir ce sacrifice, et les diacres ayant un service. Alors pour revenir au culte, qui est le sujet principal de ce soir, une introduction au culte, nous pouvons en fait pressentir toute cette vie de l'Église dès le commencement, dès la première page de la vie de l'Église, tout de suite après la Pentecôte, après la première vague de conversion. Nous pouvons lire un petit résumé de la vie chrétienne, nous pouvons lire ce qui fait le cœur de l'expérience. C'est un petit verset dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2. « Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » Dans ces quelques éléments, on voit déjà ces trois dimensions de l'Église. L'enseignement des apôtres, donc la dimension prophétique, la communion fraternelle, qui atteste d'une vie communautaire organisée, sous la conduite des apôtres, qui manifeste le Christ qui conduit sa communauté. Et puis, il y a surtout les prières et la fraction du pain, pour parler de cette sanctification que le Seigneur réalise au travers du culte en communauté, la prière, mais surtout la fraction de pain, l'Eucharistie, qui est toujours au centre. Alors nous reviendrons sur l'Eucharistie sous différents aspects, mais j'aimerais ce soir encore évoquer un témoignage très ancien sur la vie liturgique des chrétiens, qui justement parle du culte chrétien, et en particulier de son sommet, l'Eucharistie, le culte public et communautaire des chrétiens. C'est le témoignage de saint Justin au milieu du IIe siècle. Vous connaissez peut-être ce philosophe et martyr. donc qui a vécu juste un siècle après les apôtres et qui donne un témoignage intéressant sur la prière des chrétiens. Je le cite. Le jour appelé jour du soleil, tous, qu'ils habitent la ville ou la campagne, ont leur réunion dans un même lieu et on lit les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes aussi longtemps qu'il est possible. Quand le lecteur a fini, celui qui préside fait un discours pour nous avertir et pour nous exhorter à mettre en pratique ces beaux enseignements. Ensuite, nous nous levons tous et nous faisons ensemble des prières. Puis, lorsque nous avons fini de prier, on apporte le pain avec le vin et l'eau. Celui qui préside fait monter au ciel des prières et des actions de grâce autant qu'il en est capable, et le peuple acclame en disant « Amen ». Puis on distribue et on partage à chacun les dons sur lesquels a été prononcée l'action de grâce. Ces dons sont envoyés aux absents par le ministère des diacres. Alors dans ce témoignage très ancien, on trouve déjà la structure de notre messe, hein, qui n'a pas changé, autour de ces deux grandes parties, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Alors, je me rappelle que nous avons aussi déjà évoqué l'apparition de Jésus aux disciples d'Emmaüs. Il y avait déjà cette première structure de la messe, hein, entre ces deux éléments où Jésus d'abord partage sa parole, partage la parole de Dieu, et ensuite il se donne dans le pain eucharistique. Ces deux parties qui sont inséparables, la première qui prépare et qui conduit à la seconde. Alors, la deuxième partie de la liturgie eucharistique a beaucoup d'éléments qui sont stables et répétitifs parce que l'essentiel ne change pas. C'est le sacrifice du Christ qui se rend présent. Mais la première partie, justement, qui nous y dispose, eh bien, elle va déployer tout au long de l'année les différents aspects de la vie du Christ, différents aspects de l'enseignement des Écritures. Et elle permet justement de se disposer et d'entrer d'une manière à chaque fois nouvelle dans notre communion au Christ. Alors pour terminer sur le témoignage de saint Justin, écoutons quand même ce qu'il dit justement de l'Eucharistie, sur notre foi en l'Eucharistie. Personne ne doit prendre part à l'Eucharistie sinon celui qui croit à la vérité de notre doctrine, qui a été baptisé pour obtenir le pardon des péchés et la nouvelle naissance, et qui vit selon l'enseignement que le Christ nous a transmis. Car nous ne prenons pas l'Eucharistie comme un pain ordinaire ou une boisson ordinaire. De même que Jésus-Christ, notre Sauveur, en s'incarnant par la parole de Dieu, a pris chair et sang pour notre salut, ainsi l'aliment devenu Eucharistie par la prière contenant sa parole et qui nourrit notre sang et notre chair en les transformant, cet aliment est la chair et le sang de ce Jésus qui s'est incarné. Voilà ce qui nous est enseigné. Saint Justin nous a donné les conditions pour participer à l'Eucharistie. Elles sont intéressantes, elles sont importantes. La foi, celui qui croit à la vérité de notre doctrine, bien sûr. La foi qui est unie au baptême, qui est le signe visible, le sacrement visible de la foi. Ce baptême par lequel nous sommes unis au Christ, nous devenons membres de l'Église. Mais aussi, comme condition, vivre selon l'enseignement du Christ. Car notre vie fait partie de l'offrande que Dieu attend de nous. Le culte, pour nous, ce n'est pas quelque chose d'accessoire ou une activité cérébrale. C'est toute notre vie transformée par l'Esprit Saint qui approfondit son union au Christ pour rendre gloire et honneur au Père. L'amour et la joie qui constituent la vie divine sont transfusés dans notre vie personnelle et communautaire. Et dans notre vie liturgique, ici-bas, au-delà justement de la communauté chrétienne que nous voyons aujourd'hui, nous sommes déjà en communion profonde avec tout le monde invisible, avec les anges qui adorent aussi le Seigneur, avec les saints qui nous précèdent au ciel, avec les défunts qui se purifient dans l'amour du Seigneur. L'Esprit Saint nous met en relation avec la liturgie éternelle que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse. Je cite l'Apocalypse au chapitre 7 qui nous parle de cette liturgie céleste. Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, langues et peuples. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte : Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. »